Ça a commencé en janvier. J'avais oublié quand, puis Louis, la semaine passée, c'était en janvier. On a commencé un genre. Alors, on termine. On est rendu le mois de juin. Alors, ça fait du temps. Et c'est pas tous les dimanches, mais chapitre 5. Si vous n'avez pas votre Bible, c'est pas grave parce que les versets vont paraître sur le mur à travers l'étude ce matin. Mais, avez-vous la certitude sur certaines choses? Je ne sais pas en question de piège, c'est pas en question pour voir qui est le plus spirituel. Mais la certitude des choses. Est-ce que ça arrive qu'on se parle au suis sûr de ça? Je connais, je sais que c'est ça. Oui. Hein? Moi, je pense à acheter un barbecue cette semaine. Je suis sûr que je suis capable de monter. Si toutes les pièces sont là, si je lis attentivement et je fasse toutes les étapes comme il décrit, je suis sûr que je peux monter le barbecue. Alors, l'idée de savoir des choses dans la vie, cinq fois dans ces derniers versets dans 1 Jean, Jean va dire, nous savons. Et j'aime ça. Parce que, en réalité, il n'y a pas aussi grand la liste des choses qu'on peut dire avec certitude. Ça, c'est vrai. Alors, je suis content que c'est comme ça que Jean, il termine. Alors, là, ce matin, voilà, nous savons. Et vous allez voir la suite des cinq choses, nous savons que, et ça va continuer. Alors, si vous êtes là dans le texte, en même temps, je vais juste mettre ma Bible ici. C'est pas parce que c'est mémorisé, mais c'est tout ce que mais peut-être juste, on s'incline un instant, demander au Seigneur de diriger nos pensées. J'ai fait une étude de ce texte. J'espère bien. Ce que je vais vous présenter représente ce que vous voulez. Mais j'ai entendu un pasteur qui priait avant le message du Seigneur. Si je dis des choses qui ne sont pas vraies, je te demande de les enlever de la pensée des gens pour qu'on ne soit pas induit dans l'erreur. Donc, j'aimerais bien. Merci. Seigneur, merci. Que tu nous laisses la parole et avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, on a la certitude, la possibilité de connaître ta parole et de connaître ce que tu veux communiquer. Seigneur, je prie que ce temps d'étude ce matin, on arrive à la fin d'une série d'études qui a duré plusieurs mois. Seigneur, qu'on arrive à la fin, pas juste pour tourner une page pour dire, ben oui, on a étudié 1 Jean, mais arrive à la fin avec une compréhension des principes qui peuvent changer nos vies et les choses qu'on peut mettre en pratique à tous les jours. Nous dirige ce temps, sinon je prie que le message va refléter ce que la parole enseigne. Et je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, nous savons, puis vous pouvez dresser la liste des choses, vous êtes sûrs. Mais j'aimerais ajouter ce matin 5 choses. Vous pouvez être sûr. Alors, Jean, il commençait le verset 13. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Alors, nous savons que nous avons la vie éternelle. C'est pas un petit détail de la vie, hein? Nous savons que nous avons la vie éternelle. Et en certaines églises, les gens diraient amen à ça. Pas ici ce matin, peut-être, mais c'est vrai que nous avons cette certitude que nous avons la vie éternelle. Je trouve très intéressant les évangiles de Jean, même auteur, je crois que ça va apparaître en haut. Oui, alors Jean, à la fin de l'évangile de Jean, c'est intéressant, j'aurais aimé, si c'était à moi de diriger la rédaction, que Jean met ça au début. Regarde, on lit ça, je vous écris cela, 21 chapitres, l'évangile de Jean qui raconte l'histoire de Jésus, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Mais si ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. J'aime vraiment les C'est vous qui avez. Hein? Le début et la fin, les écrits de Jean. Ben, c'est sûr, il en reste des choses que Jean va écrire, mais de dire, l'Évangile est écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, et qu'en mettant votre foi en lui, vous ayez la vie. On termine l'épître en disant, je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Alors, c'est intéressant de mettre ces deux versets, ces deux idées de Jean qui englobent le début et la fin de ces écrits. Pourquoi Jean a pris le temps d'écrire? Alors, soulignons que nous avons la vie éternelle. Si ce matin, c'est pas votre cas, si vous dites, n'est-ce pas ça? Je peux vous dire, et ça c'est sûr, parce que c'est la Bible qui nous dit qu'il est possible de s'en rendre. Qu'il est possible d'être sûr de nos salut. Pas parce qu'on a une foi plus grande que l'autre, mais parce que Dieu a tout fait et il nous rend la possibilité. Il présente en son fils Jésus la possibilité de savoir éternellement que nous aurons la vie éternelle. Et ça c'est notre amen dans une autre église. Ok, j'arrête ça, c'est même pas drôle. Ok, mais ça continue, c'est le verset 14, 15, et vous allez voir que la deuxième chose, nous savons que, quoi? Vos prières sont exaucées. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Est-ce que tous vos prières sont exaucées? Non? Oh, mais à ce moment-là, on se trompe? Non, prenons le temps. Parce que, honnêtement, notre petit groupe, c'est la semaine passée, mardi, j'ai posé la question, puis on a une bonne discussion, mais j'ai besoin de votre aide parce que je trouve ces versets très intéressants, sinon difficiles. Mais qu'est-ce qu'on dit pour faire la parole? Oh, mais pas de suite, Robert. Alors, et ça c'est plus de l'audition d'autrefois. Voici quelle assurance que nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Ok, alors c'est pas carte blanche. Hein? Oui et non. Donc on peut pas prendre ce verset, ces deux versets, puis dire, ok, Dieu, je veux un Cadillac. Je prie avec toi, je veux un Cadillac. Aujourd'hui, c'est plus un Cadillac, parce que quand j'étais jeune. Je veux peu importe, un BMW, un Audi, c'est pas, pas de choix. Je veux un Honda Accord. Oh, c'est exaucé. Non. Mais on pourrait dire, avec toute simplicité et innocence, c'est la fête de paille, ok. Je veux une grande maison. Seigneur, je veux une grande maison. Alors, qu'est-ce que Jean nous dit? Qu'est-ce qu'il communique à travers ces versets? Il y a plusieurs choses que j'aimerais souligner. Premièrement, et ça c'est en général, il faut prier. Mais tout d'accord, je ne dis pas encore ce qu'il va après. Il faut prier. Qui vote? Oui, il faut prier. Oh, merci Claude. Alors, Claude, il donne un appui biblique. Paul a dit, prier sans cesse. Alors, est-ce qu'il faut prier? Le vote est? Pas l'unanimité encore. Mais si vous n'êtes pas convaincus, restez avec nous. Mais c'est pas par obligation. J'aimerais, il faut que ça soit entendu. C'est pas par obligation. Oh, il faut que je prie. Alors, je vais me mettre à genoux, un peu comme Daniel, hein, trois fois par jour, je se mettre à genoux devant la fenêtre, même pour verre. Non, c'est pas par obligation, mais par le désir d'être en communion avec notre Dieu. Je pense que le jour qu'on saisit cette réalité que Dieu nous donne par la prière le privilège de communiquer avec le Créateur, celui qui est l'auteur de notre salut. Il nous donne ce privilège. Et à ce moment-là, c'est pas oh, il faut que je dis non, c'est j'ai le droit de m'approcher de Dieu dans la prière. C'est pas les formules, les prières écrites. J'ai rien contre le Notre Père. C'est très biblique. Je pense qu'on pourrait, tous les jours, répéter cette prière parce que Jésus a dit, mais voilà, modèle, vous voulez prier, comment savoir? Comment faire avec ça? Mais on a la possibilité de prier, de communiquer avec Dieu. Alors, ça c'est la première chose, et j'espère bien que Vous ne sentez pas une obligation de prier. C'est pas pour vous, au repas, probablement vous priez la plupart du temps. Bon, on va baisser la tête, on va aussi au Seigneur pour le repas. On est reconnaissant. Est-ce que ça arrive parfois que vous ne dites pas merci avant de manger? Ah oui. Parfois, c'est pas parce que ça me gêne. Mais parfois, si on est avec des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont déjà commencé à manger, mais ils seraient tellement gênants pour eux. Et non. C'est pas une obligation, c'est une prière. Alors, si à la fin, même, vous déjà cité le repas, qu'on a pris à la fin, plutôt que, voyons, qu'est-ce qui se passe, je? Et c'est pas plus grave que vous ayez toute l'heure, alors on va essayer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh oui, à la fin du repas, on a prié. Et on a dit merci après avoir mangé. C'est peut-être, c'est pas bien de foi, bien de reconnaissance. Ça dépend de toi aussi. Alors, première chose. Deuxième chose. Oh, Hébreux 4. Cette notion de cette idée d'avoir tout l'esprit avec Dieu. Quelque point de vue, Hébreux 4, 5, s'il vous plaît.
En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, nous l'avons senti en tout temps, comme on le fait, mais sans connaître le péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une sereine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, que nous donnons à sa grâce, et nous serions soutenus au bon Dieu.
Ah! Alors, à qui on prie? On prie le grand prêtre, qui, pas seulement qui, celui qui avait le droit d'entrer dans la présence de Dieu, mais celui qui l'a fait avec nos fardeaux sur ses épaules. Alors, on a un accès libre, puis quand on, et j'aime tellement cette partie, approche-nous donc de le fond de Dieu de grâce, de plein assurance. Alors, il faut prier. Deuxième chose, dans notre communion avec Dieu, il est important de connaître la volonté de Dieu pour que nos demandes s'alignent avec cette volonté. Ça, c'est tiré directement de ces versets. C'est un principe qui se trouve ailleurs dans la parole, mais cette notion de connaître la volonté de Dieu, comment vous connaissez la volonté de Dieu, en général? En général. Comment connaître la volonté de Dieu? Ok, par la Bible. C'est probablement la façon la plus sûre. Seigneur peut utiliser des personnes, des conseils donnés, etc. Mais au moins, quand on ouvre la Bible, le document que Dieu nous a laissé, là, on peut avoir cette sûreté en lisant, en connaissant le texte biblique, de connaître ce que Dieu veut. Ça pourrait être sur le grand schéma de le monde entier, comme ça pourrait être pour ma vie personnelle. Alors, encore là, je souligne que le désir de connaître la volonté de Dieu, de connaître Dieu, si vous voulez, c'est ça qui devrait nous pousser vers le texte biblique. Le connaître Dieu. Celui qui m'a tout donné. Le connaître. Et quand ça devient ma motivation, mais bon, je peux vous dire, le temps de lecture, c'est merveilleux. On ne voit pas le temps passer, ou même si on a 2 minutes et on a 5 minutes, mais le temps, là, dans le texte, pas parce qu'il faut, je veux cocher que j'ai fait mes devoirs de lecture ce matin, mais parce que je veux connaître Dieu. Regarde ce que Jean dit, et c'est Jésus qui l'a dit, mais dans l'Évangile, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. C'est Jésus qui l'a dit. Mais si on le place dans le même contexte du verset d'un Jean, cette notion de connaître Dieu, de connaître ce qu'il veut, c'est pas quand on veut demander quelque chose sachant qu'on a l'appui du boss. Hein? Ça, c'est un texte, il y a des parties qu'on nous dépense. Quelqu'un pourrait nous lire, c'est Jésus dans le jardin. Mais j'aimerais bien qu'on lit ensemble, mais pas ensemble, mais quelqu'un nous lit au complet.
Alors, il a dit, je suis accablé de tristesse à mourir. Le Saint-Esprit est veillé avec moi. Il dit quelque part, se laissa tomber la face contre la terre, et dit ainsi, au Père, si tu le veux, écarte-moi, toute-moi, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples, et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ici, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de volonté, mais la nature humaine est bien. Il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit terminée, s'il faut que je la boive alors que ta volonté soit faite.
Jésus, le Fils de Dieu, qui est omnipotent, omniscient, qui connaît tout et capable de tout faire, mais dans les moments les plus difficiles, je dois croire, dans son existence humaine sur la terre, voilà la prière de Jésus. Et le Père pour lui, il savait ce qu'il attendait. Il connaissait en détail ce qu'il attendait dans les prochaines heures. Comment il serait maltraité, finalement cloué sur la croix. Il connaissait tout cela parce qu'il est Dieu. Il avait une compréhension complète de cela. Mais cette prière, il l'a dit deux fois, pas ce que je veux, mais plutôt ce que ta volonté soit faite. Est-ce que j'ai tenté Jésus de dire ça? Comment pas? C'est pour ça qu'il priait, et même il l'a fait à trois reprises. Alors pour nous, parfois, je pense que c'est l'exemple de Jésus, c'est un bon exemple pour nous, parce que nous, on peut insister dans la prière, on prie, on dit, mais Seigneur, il faut! Et on insiste, puis on prie longtemps pour certaines choses. Peut-être on devrait apprendre une leçon de Jésus en disant, mais si c'est pas ça que tu veux, donne-moi la grâce d'accepter que ta volonté soit faite. Verset nous dit, 14-15, le verset nous dit que Dieu nous écoute. N'est-ce pas merveilleux déjà? C'est 1 Jean 5-14, il nous écoute. Et il répond selon sa volonté. L'homme sans cette promesse. Nous savons que nos prières sont exaucées. La condition est claire. Mais en réalité, mais vous avez probablement déjà vu ce que j'ai mis, c'est ça qu'on devrait désirer. Que sa volonté soit faite. Car il est le seul qui voit l'ensemble de notre vie, il sait comment, même un temps difficile, va accomplir sa volonté pour nous plus tard. Je veux lire, je vais traduire un texte que j'ai reçu. Collègue missionnaire qui est au Cambodge. Ils sont là depuis des années, puis ils viennent de retourner là-bas il y a un mois, peut-être 6 semaines. Mais je veux lire ce que Phil, il s'appelle Phil Coppola, mais voilà ce qu'il a écrit. Sa femme Karen, elle est éteinte de sclérose en plaques depuis des années. Elle est rendue en chaise roulante la plupart du temps, elle peut prendre quelques marches, quelques bons, mais pas beaucoup. Mais retournez là-bas. La chaleur, c'est une des choses pires pour le sclérose en plaques. Elle se trouve à Cambodge, des choses. Mais parce qu'ils sont convaincus que c'est là que Dieu veut qu'il soit. Mais il y a 4 jours maintenant, Karen est tombée dans un coma avec le meningite, comment est-ce qu'on appelle, Pongo. C'est grave. Elle est dans un coma, s'est rendue de pire en pire en pire. Et voilà ce qu'il a écrit hier soir sur Facebook. Pour garder un peu ses amis au courant. Pendant la dernière nuit, Karen s'avérait en mal. Hier, elle a développé le sepsis, à cause de notre monique, elle avait déjà Elle descend de plus en plus profondément dans le tourment, en anticipant qu'elle va se vivre. Si Dieu répond à nos prières en disant que de l'amener au ciel serait ce qui donnerait le plus grand droit, alors nous serons dans la joie que l'éternité ne connaît pas de barrière et qu'il a été et il est toujours prêt. Je refuse de céder mon espérance, mais je suis réconforté par le fait que je sais que ma femme est dans un lieu très, très sûr. Dans les bras du Seigneur. Alors nous attendons la réponse de notre Dieu. Ces versets, c'est pas juste une bonne idée. Je connais Phil ou Karen, bons amis. Puis, Cambodge, c'est l'autre côté de la planète. Les trois enfants, les filles sont rendus là, probablement pour assister le décès de leur mère. Son fils devrait arriver sous peu. Mais je suis touché que ce n'est pas la première fois qu'il a écrit, qu'il a posté comme ça sur Facebook. Je vois un homme qui, à moins que Dieu intervienne de façon miraculeuse, il va perdre sa femme dans les prochains heures. Mais il trouve réconfort dans le fait que son Dieu, notre Dieu, est souverain. Et que Dieu connaît le plan qu'il a pour sa femme. Ici, c'est le moment de l'enlever de cette terre, le transporter dans sa gloire. Il est correct avec ça. Alors, 1 Jean 5, 14 et 15, là, on n'est pas, j'ai pas vécu chose semblable à date. J'étais jamais dans un contexte là où si Dieu ne répond pas à ma demande, je vais perdre quelqu'un. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Mais j'apprécie beaucoup cette notion. Si on peut prier Dieu et on se confie à quelqu'un qui connaît le tout de ma vie, de nos vies. Et si c'est la maladie, vous vous souvenez de Paul? Trois fois, il demande à Seigneur, enlève cette écharpe dans ma chair. Je veux te servir. Je suis convaincu que je peux mieux te servir si tu l'enlèves. Et Dieu a dit non. Donc trois fois. Alors, finalement, Paul a dit, OK, si c'est ça, si c'est la faiblesse que tu veux pour moi, je vais me glorifier dans mon état faible pour que la gloire soit donnée à ton nom. Alors, c'est pas juste de blablabla, j'en vous donne. Je peux vous dire, ce sont les choses dans lesquelles on doit trouver et mettre nos âmes pour la vie. Je pense que lui, elle a mentionné soit le dimanche passé, un commentaire, ou dans un petit groupe, mais nous sommes en fait, l'idée de l'éternité des livres qui te donnera ce que ton cœur désire. J'aime beaucoup ce verset parce que ça montre à quel point que je dois, il faut que mes désirs, mes délices, les choses qui fait le choix de ma vie, qui se trouvent dans l'éternité. Et drôlement, ce qui arrive, là, il change mon cœur. Et les choses que je désire deviennent les choses qu'il veut pour moi. C'est pas magique. Mais c'est biblique. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, une partie de notre faiblesse, nous ne savons pas prier comme il faut. On pense ce matin les choses qu'on sait. On sait certaines choses, mais on ne sait pas toujours comment prier. Êtes-vous d'accord? Souvent même. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a un grand récompense dans ce verset. Quand on ne sait pas quoi prier, quand on est devant le mur, puis on sait, c'est la question, et on ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui prie déjà pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Wow! Il prie pour l'Esprit qui connaît le cœur du Père, prie pour nous. Puis j'ai l'impression que les prières du Saint-Esprit sont toujours exaucées. Ça, c'est merveilleux. Je suis content que ça ne répond pas à mes prières. Parfois. Parce que je crois tout le faire à maman. L'Esprit de Dieu, oui. Alors ça, c'est un encouragement que parfois, quand on est vraiment dans le sans sortir, là, on fait quoi? Même quoi dire? Où tourner l'Esprit de Dieu? Et le plan de Dieu est moyen. Alors, il reste encore une partie dans la deuxième chose. Nous savons que nos prières sont exaucées. Ça confirme verset 16 et 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Ouh! OK. Wow! Il y a des péchés qui mènent à la mort. Il y a des péchés qui mènent pas à la mort. Hein? Bon. Mais je ne ris pas de texte. Mais la question peut voir avant. On dit ça. Bon, OK. Alors, c'est quoi le péché qui ne mène pas à la mort? C'est quoi le péché qui mène à la mort? Encore quelques suggestions. Si ça vient de Dieu, si ça représente la pensée divine qui se trouve dans la Bible, voir à Dieu. Premièrement, si un frère ou une soeur pêche, nous devons prier pour lui ou pour elle. Ça, c'est sûr. OK? C'est biblique, c'est tiré directement la parole. Êtes-vous d'accord? Si on connaît quelqu'un qui a peut-être lutté contre un péché, mais tombé dans le péché, c'est quoi qu'on doit faire? Il faut prier. Première chose. Dernière chose. Prier. Deuxième chose, notre responsabilité est la prière, pas l'enquête, pour déterminer si son péché mène à la mort ou non. Je ris un peu, mais c'est pas si drôle que ça, ça va paraître. Quelqu'un a commis un péché. Est-ce qu'il va mourir? Qu'est-ce qu'il fait? Mais prie! Puis ça suggère que nous avons des liens étroits avec nos frères et sœurs. Si on les voit dimanche matin, comment ça va bien? Puis, oh, mais bonne semaine, puis à dimanche prochain, puis non, puis c'est comme ça. Et c'est sûr, on va même pas savoir s'il tombe dans le péché. Non. Et lui non plus va savoir si je tombe dans le péché. Alors, ces versets suggèrent des liens étroits entre frères et sœurs en Christ. Mais c'est pas à moi. Oh, là, ça c'est grave, ce qu'il a fait. Puis on a toutes nos listes, hein? Nous chacun, on a une liste des péchés graves. Et ça varie d'une personne à l'autre. Hein? Ça dépend de notre arrière-plan, etc. Mais on a toutes une liste des plus graves péchés du monde. Puis si on sait qu'une telle personne a commis un de ces péchés-là, la parole nous dit que si la personne est encore vivante, on a une responsabilité, c'est de dire. Dépendant le lien qu'on a, peut-être serait aussi d'aller voir la personne, prier avec la personne, c'est d'encourager la personne à suivre la parole de Dieu, mais il faut commencer par la prière. Vous avez des exemples, Ananias et Sapphira, ils parlent, est-ce qu'ils ont commis le péché qui mène à la mort? Oui. Ils sont morts devant eux. C'est pas là. En Corinthiens 11, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et alors il mange de ce pain, boit de cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison,
c'est là de la souligner,
qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Apparemment, dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui avaient commis des péchés qui menaient à la mort. On ne sait pas quoi. Et c'est pas ça qui coûte. C'est pas le savoir. Mais quels sont... Alors, on parle du temps, mais c'est quoi le péché sans pardon? Mais selon ces textes-là, c'est pas juste un péché. Et même, je peux vous dire que, je vais le mettre ici, le texte original ne dit pas qu'il y a un péché. Il utilise, mais le langage dit qu'il y a deux péchés qui mènent à la mort. Il dit pas un, deux, trois, quatre, il donne pas une liste. Il y a la possibilité que quelqu'un commet un péché qui, ce péché-là va l'amener à la mort. C'est une réalité. Mais, nous, si c'est pas nous, on n'est pas des enquêteurs. Est-ce qu'un tel péché va l'amener à la mort? On ne sait pas. Alors, oui, prions. Oui. Je crois, oui. Mais non, mais il n'y a pas de question de faire salut dans ces textes non plus. Non, non, c'est ça. Ils sont morts parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et là, ici, dans ce contexte, on parle de gens qui peuvent commettre un péché qui... Peut-être c'est plutôt de voir la longanimité, d'avoir un meilleur mot, la patience, on va faire, c'est tout court. La patience de Dieu. Qui nous pardonne? Qui nous pardonne? Qui nous pardonne? On sait qu'il est prêt à pardonner 7 fois 70 fois, parce que c'est ça qu'il a dit à Pierre de faire. Mais peut-être dans le plan de Dieu, là, quelqu'un qui persiste, qui pêche encore, et Dieu dit, ok, c'est assez. C'était ce qui est suggéré dans le verset qu'on vient de voir, là, en Corinthiens 11. Il y avait des gens qui avaient commis le péché, qui les a amenés à mourir. Hein. Peut-être c'est parce que Dieu dit, assez là, je vais vous enlever, vous faites tellement de dégâts, alors, je vais vous enlever pour que mon œuvre continue. Je ne sais pas. Je ne connais pas le plan de Dieu. Mais je pense que la chose, et je reviens à cette simplicité de texte, il faut prier. Les uns pour les autres. Parfait? OK. Maintenant, est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on est plus tendance à être les enquêteurs? J'ai vu ça. J'ai entendu dire que j'ai un beau frère, je pense que vous êtes au courant, j'ai un beau frère qui est en prison depuis presque 2 ans. Il sort le 1er juillet. Alors, dans 10 jours. Puis, pas besoin de parler des détails de sa vie. Mais honnêtement, il y avait des jugements qui courent autour de lui, autour de la situation, autour de lui et ma soeur. Puis, je pense que malheureusement, où il y avait beaucoup de... On était prêts à juger, je ne sais pas combien de gens étaient prêts à prier. Alors, frères et sœurs, à nous, ça s'adresse à nous. Nous sommes les petits-enfants de Jean, dans les villes. On a une responsabilité envers nos frères et sœurs et chez nous. Pas juste quand on est au courant de péché, on n'a plus prié pour eux tout le temps, mais quand on est mis au courant de problème, peut-être on entend parler d'un couple dans l'église qui passe par un temps de site, on en met plutôt que critiquer, puis vite, commençons à se mettre à genoux pour prier que Dieu fasse son œuvre dans le cœur. OK, ça commence à être trop comme prédication, hein? Il y a une troisième chose. Nous savons, quoi, que la victoire sur le péché, Satan, nous est promise. Ça, c'est bonne nouvelle. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui. Maintenant, j'ai mis le texte de 8 secondes, parce que je trouve cette fois que traduction Bill Semmer manquait un petit peu. Alors, laisse-moi lire. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. On va aller un peu plus en détail, mais premièrement, tu le sais, si vous lisez toujours dans la même ville, hein, j'aimerais vous encourager dans la présentation. Toujours une bonne idée. Et ça ne coûte pas trop cher une Bible. Alors, j'aime même la Bible.
Celle-là.
Mais de faire la lecture dans les versions différentes, on a quelques personnes dans le groupe qui sont capables de lire en grec. Tant mieux. Quand vous avez vraiment une grande question, allez voir Ben, il va vous lire en grec. Et là, mais prenons pour acquis que c'est pas nous, en principe, on n'est pas en grec. Alors, première chose à remarquer, nous savons que Satan, qu'est-ce qu'on avait dit? On recule un instant. Nous savons que la victoire sur le péché et Satan nous est promise. OK. Maintenant, première chose, le croyant ne persiste pas dans le péché comme esprit de vie. C'était déjà dit dans l'étude de cette lettre. Le vrai croyant, l'enfant de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu en lui, qui a reçu la nature divine en lui, il ne peut pas persister dans le péché comme style de vie. Okay? C'est biblique, ça. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait pas? Non, loin de ça. À travers le texte biblique, on sait que même les enfants de Dieu sont dans le péché. Mais on parle de celui qui a un style de vie, qui persiste dans le péché. Le texte nous dit que c'est pas un croyant. Si la personne persiste, son style de vie, non, il n'est pas croyant. Et c'est pas moi qui porte le jugement, c'est Dieu. Je pense qu'il a le droit. Même on voit en Jean 3, 9, celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui, il demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Alors, Jean l'explique en détail, là. Okay? Alors, le jour de mon salut, c'est pas juste que j'ai reçu un billet pour le ciel, sans que je l'ai reçu. Mais j'ai reçu la nature divine. Dieu m'a donné, alors la vie éternelle a commencé le 18 octobre en 1972, le jour que j'ai passé ma foi en Jésus-Christ comme sauveur. Dieu m'a donné la vie divine. Le croyant est équipé divinement pour faire face aux péchés dans sa vie personnelle. C'est pas parce que vous êtes super Christian. C'est pas pour ça que vous ne péchez pas. Non, c'est parce que vous avez en nous, nous avons en nous l'Esprit de Dieu et on est équipé pour faire face au péché. Est-ce qu'on est tenté? Yes. Est-ce qu'on va succomber à la tentation? Oui. Est-ce qu'on va pécher contre Dieu? Oui. Malheureusement. Mais à chaque fois qu'un enfant de Dieu tombe dans le péché, il a ses promesses dans ses versets-là, il peut se tourner vers son sauveur, il peut de nouveau recevoir la grâce du pardon accordé à la croix du calvaire et aller de l'avant. J'aime beaucoup ici, 2 Pierre 1, tout le chapitre, c'est merveilleux, mais on va juste lire cette première partie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelé par sa gloire et par sa force. Wow! C'est beaucoup déjà. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et si grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Maintenant, ce que Satan peut-être suggérer qu'il en fait certaines choses, on va arriver à devenir participant. Mais c'est pas ça. Nous sommes participants parce que le jour de notre salut, on a reçu la nature de Dieu en nous. On parle de nouvelle nature. L'ancien est toujours là. C'est lui qui nous donne la misère. Mais on a la nature de Dieu en nous. Troisième chose, le croyant est protégé de son ennemi. le malin ne peut pas le saisir. Le mot utilisé, c'est deux fois dans le texte biblique. Deux fois, c'est dans l'évangile de Jean. Mais le texte dit que Satan ne peut pas nous saisir. Il ne peut pas nous prendre entre ses mains pis. Non, il ne peut pas. Satan doit opérer à l'intérieur des limites établies par le ressuscité qui a la victoire sur lui à la croix. Ça, c'est que notre Amen ce matin. Notre Sauveur, le ressuscité, même par la résurrection, a montré la puissance et même la victoire sur nos ennemis. Quelques versets. Celui qui se donne au péché appartient au diable, car le diable fait bien le commencement. Alors le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les hommes diables. Ça, c'est mon Sauveur. Une des raisons pour lesquelles il est venu, c'est pour détruire l'homme diable. Wow. Et si donc, puisque ses enfants sont unis par la chair, et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leur condition, ou par le Jésus. Il a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, le vivant par le pouvoir de la mort. Wow! Encore, Jésus l'a fait! Il a enlevé cette puissance qu'avait Satan sur nous, et la mort même. Oui, on peut avoir peur de comment on va mourir, ça c'est normal. Mais la mort, c'est juste une introduction à une prochaine étape qui est dans la présence de Dieu. Alors Satan, il n'a pas de pouvoir, là. Quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Ça, c'est Jean 13. Jésus parle de la venue du Saint-Esprit. Et notez une des choses que l'Esprit va convaincre dans le cœur de l'être humain. Au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. On parle de Satan. OK? Le dominateur de ce monde, c'est un autre nom, une autre description de Satan. C'est fini la bataille. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous avez victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous, plus puissant que celui qui inspire ce monde. Alors, on a cette certitude. Notre Dieu, notre Sauveur, est plus fort que cet ennemi. Il veut nous détruire. Il veut nous amener dans le péché, constamment. Alors, c'est trois choses encore juste. On rappelle. Quatrième sur cinq. Ça arrive à ça. Nous savons quoi que nous appartenons à nous. Parce que parfois, vous voudrez, je suis là. Parce que je suis dans la famille. Vous luttez avec ces choses parfois. Et le texte nous dit, nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier, sous le couper du diable, nous pouvons avoir, et c'est pas juste ces quelques lignes là, mais c'est à l'intérieur de ce qu'on voit ce matin, à l'intérieur de 1 Jean, à l'intérieur de la parole de Dieu, que nous avons cette certitude. Nous appartenons à Dieu. Parce qu'on est saint, parce qu'on est beau, ou belle. Non. Non. Parce qu'on a reçu un don de Dieu, qui s'appelle la vie éternelle. Parfois, on parle de la société postmoderne, et tout le monde doit avoir raison. Il n'y a pas d'absolu. Ça décrit un peu la mentalité de notre monde, 2014. Mais parfois, il faut trancher. Puis il y a deux possibilités. On est soit enfant de Dieu ce matin, ou enfant du diable. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas un troisième ou quatrième ou cinquième choix. Maintenant, de dire avec amour, de dire avec compassion pour la personne qui ne connaît pas encore notre Dieu, qui n'est pas encore enfant de Dieu, c'est pas de porter jugement, mais c'est une réalité. Parce que cette dichotomie, enfant Dieu, enfant diable, doit rester devant nos yeux. Garde ton exemple, on intéresse nos amis qui ne connaissent pas Jésus. Que ça ne soit jamais trop loin de nos pensées. Mon ami là, s'il ne connaît pas Jésus, il est enfant du diable, puis la Bible est claire de destinée de ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur. Et que ça nous pousse vers ces gens. La dernière chose, cinq choses, nous savons que, voilà le cinquième, on arrive à la fin du chapitre et de la lettre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on devrait dire. Nous savons que Jésus est la vraie chose. The real thing, ok? Mais j'explique un peu plus, qu'il est le Dieu véritable. C'est lui. Et le texte nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et si nous appartenons au Dieu véritable par notre union à notre Fils, à son Fils, Jésus-Christ, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, si mon effort n'était pas trop bon, je pense que l'ensemble va expliquer ce que ce verset dit. Je pense qu'un rappel, qu'on ne soit jamais trop émerveillé par notre salut, que ça devient ordinaire, ce que Dieu a fait pour nous. Que la bonne nouvelle, l'évangile ne soit, que ça ne devienne jamais une chose qu'on manque. Non. Parce que c'est une œuvre divine. Grâce à l'incarnation, Jésus, Dieu avec vous. Vous connaissez l'histoire? Petit garçon, l'heure de dodo, puis son père était trop pressé, alors il a mis dans son lit. Il retourne à son travail, à l'autre pièce. D'un coup, il entend le petit, il dit, mais papa, j'ai peur, viens ici. Et le père a dit, mais fais correct là, je vais avec toi, dors. Le petit voit, papa, je sais que tu es avec moi, mais je veux quelqu'un avec toi. Jésus est venu, il est le Dieu avec vous. Il a dit, je suis venu pour vous montrer le Père. Dieu le Père ne va jamais prendre un corps. Okay? Il est le Dieu invisible, le Dieu esprit. On va peut-être au ciel, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'apparemment notre existence ici, on ne va jamais voir Dieu le Père, jamais. Alors Jésus a dit, ok, je deviens Dieu de peau. Je vais prendre la peau sur moi, je vais prendre la forme pour que les gens puissent nous voir. Alors, grâce à l'incarnation, Jésus nous introduit à son Père, qui s'appelle dans ce verset le véritable. Trois fois, dans un verset, on utilise ce mot, le véritable, le véritable, le véritable. On a l'impression que Dieu est le véritable. Alors, mais ça prenait l'incarnation. Parce que si Jésus reste au ciel, même si Dieu fait tomber du ciel un livre, la Bible, puis on peut lire, on ne serait jamais capable de saisir. Grâce à cette introduction, parce que Jésus nous a présenté à son Père, nous sommes unis avec le véritable par le moyen de son Fils. C'est un peu comme si Jésus a dit, mais Tim, je vais te présenter le Père. Papa? Ça, c'est ton enfant. Jean 17, là, la prière quand Jésus prie, on parle de la prière face au bocal dans les heures juste avant la croix, mais priez pour nous, nous. Pas juste les disciples, mais il dit, je prie pour ceux qui vont croire. Alors, Jésus nous a présenté à son Père. Et finalement, ce Fils, notre sauveur est le véritable Dieu et la vie éternelle. Ce qu'on reçoit. Ok. Amen. Yes. Amen. Il reste une chose dans le chapitre, dans la lettre. Nous savons que nous devons nous garder des idoles. Alors, comment terminer une si belle lettre? On a regardé depuis 6 mois. Toutes les semaines, mais on regarde un Jean. Puis c'est plein de choses incroyables. Hein? Il a montré le contraste entre la vie et la mort, entre les enfants de Dieu, les enfants du diable. Il nous a parlé de l'amour. Il nous a montré à plusieurs exemples de l'amour de Dieu pour nous. Alors, on a parlé de tout cela, cinq chapitres, et on arrive à une dernière phrase. Alors, quand on a terminé, pense pas que si c'était à nous de décider, ok, c'est quoi la dernière chose qu'on va dire, mais voilà ce qu'il a dit, attention aux idoles. Ça vient de tout, ça. Mais honnêtement, c'est un peu ça que je dis pas. Jean, pourquoi ça? Je parle de toutes ces choses-là, mais on vient d'avoir une discussion sur Jésus, puis ce qu'il a fait pour nous, puis la certitude de beaucoup de choses, puis il termine en disant, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça tombe de, ben, ça vient d'où? Oui. Laisse-moi suggérer au moins quelques pensées. Il y en a qui sont très visibles, normalement nous faisons attention. Ok? Si vous étiez dans l'église catholique, avant le Père Jésus, vous étiez entouré d'idoles. Okay? Des icônes. Puis probablement, j'imagine que si c'était votre expérience avant de connaître Jésus, en se tournant vers Jésus, vous avez quitté ça. Puis vous dites, non, j'ai plus besoin de ça. Alors les idoles, les icônes et tout cela, je mets ça, ça c'est dans mon passé. Ok, c'est correct. Alors on fait attention des choses visibles. Parfois. Mais, on vient tantôt parce qu'on vient d'acheter un auto. Certaines dans la salle rient de moi. J'ai jamais tiré notre voyageur. Ou caravane. C'est quoi qu'on a dit? Un dash caravane. J'ai jamais tiré notre auto. C'est trop gros. Ça prenait trop de temps. Ça me tentait pas. Je peux vous dire une chose, depuis qu'il y a un Honda Accord dans l'entrée chez nous, là, je fais attention. J'ai promis l'auto. Je dis à Barbara de faire attention, de ne pas trop verser. Je ris, mais c'est facile pour une auto de devenir une idole. Je pense que Dieu va pouvoir bientôt laisser quelqu'un pour que je sois capable de dire, ok, c'est juste une auto. Oui. Mais, alors, mettez mon auto, mon histoire, trouvez ce dans votre vie, qui est devenu presque une idole. Ça pourrait être votre apparence, ça pourrait être votre travail, ça pourrait être notre désir de bien paraître. Est-ce que ce sont des mauvaises choses? Non. Mais, attention aux idoles. Parce qu'en réalité, il y a déjà des choses qui sont visibles, mais il y en a qui sont presque invisibles. Et très très subtil. Nous ne réalisons pas qu'il se trouve sur la tablette. Hmm? Je cherche le mot le manteau au-dessus le foyer. On met des trophées, des belles choses. Mais on peut mettre sur le manteau de cheminée aussi nos idoles. On n'a pas un coin d'idole, on n'a pas un coin de prière dans notre maison comme pour des gens de certaines religions, on ferait jamais ça, mais on a des idoles. Et on donne beaucoup de notre énergie, beaucoup de notre temps pour les polir, pour qu'ils paraissent bien devant les gens. Parce qu'un enfant peut devenir une idole. Tout enfant. Parce qu'on se donne tellement, parce qu'il faut qu'il réussisse dans la vie, qu'il finisse ça. Et l'enfant peut prendre la place que Dieu devrait occuper dans la vie. Et vous pouvez mettre le sens vide est là. Mettez dans le sens vide ce qui est pour vous un danger. Je termine avec ça. Bien que Jésus-Christ soit la vedette, on parlait de ça la semaine passée. Nous ne sommes que des figurants. Hein? C'est lui la vedette. Bien que ce soit le cas, nous commençons à adorer, donc, celui-ci facilement. Parfois, tu dis, bon, comment ça? Je me suis permis d'investir tellement de temps à elle. Quand ça m'a vraiment viré de ma relation avec le Seigneur. Donc, gardons-nous des idoles. Il y a un petit chant, on le chante. Que Jésus soit le centre de notre vie. C'est beau chant, mais moi, c'est une pensée qui résume, dans un sens, un chant. Certainement, ça résume ce dernier avertissement. Mes enfants, gardez-vous des idoles. Parce que c'est tellement facile de mettre quelque chose à la place de Jésus. Alors, je vous invite, on va chanter ensemble. Jésus, sois le centre, sois l'agneau, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois la lumière, sois la source, Jésus, Jésus, sois ma vie. Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois l'élan de la vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Le centre. Seigneur, peut-être même avant de quitter le centre. On aurait fait quelque chose, on aurait pensé quelque chose qui a tendance à se déplacer de ta place. Donc, je veux premièrement te remercier de ta miséricorde, ta patience, pour mon autre monde. Merci que tu ne vas jamais cesser de travailler dans ma vie pour réaliser ton projet. De me rendre de plus en plus à l'image de Jésus. Merci pour un Jean. On a passé à travers, probablement, serait une bonne idée de recommencer déjà demain à relire, repenser les principes de ce texte. C'est remercié pour la certitude que c'est bien inversé le monde. Au moins cinq choses que nous savons. Ainsi que tu veux te révéler. Ainsi que tu veux changer de vie. Et merci que tu dois le faire. On a hâte à l'éternité. On a toute l'éternité pour le chanter. Amen.
Amen.
Amen. Bonjour.